17h sur Radio Orient. Bonsoir à tous. Votre rendez-vous d'information avec Loïc Barrière et François-Xavier de Calonne. Au sommaire de ce point d'actualité, l'espoir. Après 2 ans de guerre, le Hamas et Israël sont parvenus à un accord sur un cessez-le-feu à Gaza et un échange d'otages et de prisonniers. Un accord annoncé par Donald Trump après 4 jours de négociations en Égypte. Il s'agit de la première phase d'un plan en 20 points proposé par le président américain. Et Benjamin Netanyahou propose le nom de Donald Trump pour le Nobel de la paix. Le président américain pourrait se rendre à Jérusalem dimanche. Sur cet accord, analyse de Jean-Pierre Perrin, spécialiste du Proche-Orient. Israël annonce que la version finale de la première phase du plan Trump a été signée par toutes les parties concernées. La nuit dernière, Donald Trump a annoncé qu'elle et le Hamas étaient parvenus à un accord sur un cessez-le-feu et une libération d'otages. C'est la première phase du plan en 20 points proposé par le président américain. Il a fallu 4 jours de négociations marathon en Égypte sous le parrainage des États-Unis avec l'appui du Qatar et de la Turquie. Selon Israël, un cessez-le-feu est attendu 24 heures après la réunion du cabinet israélien qui débute en ce moment. À l'issue de ce délai, une période de 72 heures s'ouvrira durant laquelle tous les otages seront libérés et rentreront en Israël. Selon un responsable palestinien, les otages vivants seront libérés contre 2000 prisonniers palestiniens détenus par Israël. Le président américain a annoncé qu'Israël allait retirer ses troupes le long d'une ligne négociée. Ce soir, alors que les Palestiniens espèrent un arrêt des bombardements, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou propose le nom de Donald Trump pour le prix Nobel de la paix. Le chef de la Maison-Blanche pourrait se rendre à Jérusalem ce dimanche, selon le bureau du président israélien. De très nombreux dirigeants se sont félicités de ce développement après 2 ans de guerre. Dernière réaction en date, celle de l'Iran qui soutient le Hamas depuis des années. Téhéran a salué cet accord. Et puis on apprend ce soir que plus de 150 camions d'aide humanitaire sont partis d'Égypte en direction de Gaza. Au Maroc, le discours très attendu du roi Mohamed VI demain pour l'ouverture de la session parlementaire. Le souverain fixe chaque année les priorités du pays à cette occasion. Une prise de parole dans le contexte d'un mouvement de contestation dans la rue. Ce presse marocaine, le collectif Gen Z 212 qui réclame de leur service public et la démission du gouvernement a annoncé qu'il suspendait la mobilisation vendredi. Le cercueil de Robert Badinter fera son entrée au Panthéon ce soir. Un hommage de la nation à l'avocat et grand militant pour l'abolition de la peine de mort. Une abolition qu'il a fait voter lorsqu'il est devenu ministre de la Justice de François Mitterrand en 1981. La cérémonie sera présidée dans quelques instants par Emmanuel Macron. On a appris aujourd'hui que la sépulture de Robert Badinter au cimetière de Bagneux a été profané. Enfin, le prix Nobel de littérature 2025 est attribué à l'écrivain hongrois László Krásna-Horkai. Né en 1954, l'Académie suédoise récompense, je cite, son œuvre fascinante et visionnaire qui, au milieu d'une terreur apocalyptique, réaffirme le pouvoir de l'art. Selon le comité Nobel, László Krásna-Horkai est un grand écrivain épique dans la tradition d'Europe centrale qui s'étend de Kafka à Thomas Bernhardt. En France, ses livres sont publiés par les éditions Actes Sud et Cambourakis. Signalons son livre Guerre et guerre, considéré comme l'un de ses chefs-d'œuvre. Merci d'avoir suivi ce rendez-vous d'information. Place à présent au dossier du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient. Place au dossier du jour. L'accord de cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas sous l'égide du président américain Donald Trump. Coup de projecteur sur les réactions après cet accord avec vous, François-Xavier de Calonne.
Oui, notons d'abord celle des pays médiateurs, ceux qui ont discuté avec les belligérants afin de trouver cet accord. Alors, sans surprise, ils font part de leur satisfaction. Illustration avec le président turc Recep Tayyip Erdogan a remercié le président des États-Unis, la Turquie qui veut participer à un groupe de travail chargé de veiller à la mise en œuvre de l'accord. Le chef de l'État turc remercie aussi le Qatar et l'Égypte. Et l'Égypte évoque un moment crucial dans la guerre à Gaza. Autre réaction notable d'un pays non médiateur celui-là, celle de l'Arabie Saoudite qui dit espérer que cela mènera à une paix juste et durable. Le Royaume souligne l'importance que cette étape marque le début d'une action sérieuse et urgente pour alléger les souffrances du peuple palestinien, assurer le retrait complet des forces israéliennes de Gaza et restaurer la paix et la stabilité en vue de relancer un processus de paix, selon les mots du ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Malgré cet accord sur la première phase, le flou demeure sur la viabilité d'un futur État palestinien. Le président palestinien espère que cet accord puisse mener à la création d'un État. Mahmoud Abbas exprime l'espoir que ces efforts soient le prélude à une solution politique permanente conduisant à la fin de l'occupation israélienne de l'État de Palestine et à l'établissement d'un État palestinien indépendant, ce sont ses mots.
Et comment la France a-t-elle réagi, François-Xavier ?
Eh bien, Emmanuel Macron, embourbé, vous le savez, dans une crise politique inédite en France, reste actif sur la scène internationale. Après la reconnaissance de l'État palestinien le 22 septembre dernier, ce jeudi est marqué par une réunion internationale avec les ministres de pays européens et arabes, une réunion organisée par Paris. Il s'agit de discuter des modalités d'un engagement collectif pour l'après-guerre dans la bande de Gaza. C'est dans ce contexte que le président français salue, selon son propos, l'espoir immense suscité par cette annonce, souhaitant qu'il permette l'ouverture d'une solution politique fondée sur la solution à deux États. La France, dit-il, se tient prête à contribuer à cet objectif. Pendant ce temps, après ce premier pas, cette première phase, cet espoir pour la paix, eh bien, la situation humanitaire dans la bande de Gaza reste catastrophique. La présidente de l'Union européenne souligne que les 27 continueront à soutenir l'acheminement rapide et sûr de l'aide humanitaire à Gaza. Et le moment venu, selon Ursula von der Leyen, nous serons prêts à contribuer à la reprise et à la reconstruction. Cela alors que les destructions se poursuivent. La défense civile locale a fait état ce jeudi de la poursuite des frappes israéliennes dans l'enclave palestinienne.
Merci François-Xavier de Calonne. L'éclairage à présent du journaliste Jean-Pierre Perrin, fin connaisseur du Proche-Orient, que vous écoutez chaque semaine sur notre antenne dans l'émission L'Orient décrypté. On parle bien de la première phase du plan de Donald Trump.
C'est la première phase d'un accord. Les trois questions les plus obsédantes, finalement, si l'on accepte la question des otages et l'arrêt de la guerre, les trois autres questions fondamentales ne sont pas abordées dans cette première phase de l'accord. Ces trois questions sont le désarmement du Hamas, le retrait israélien de la bande de Gaza et enfin le plan qui permettra de savoir qui gouverne Gaza à l'issue de cette première phase.
Vous le dites, hein, la gouvernance de la bande de Gaza, c'est un élément fondamental. Et là, le flou demeure.
Oui, le flou demeure volontairement, sans doute, de la part des deux parties. On ne veut pas s'engager sur ce point où il risque d'y avoir un désaccord fondamental, et pour ne pas justement que la première phase soit, disons, gommée par les problèmes de la seconde, tout ça pour ne pas fâcher, évidemment, Donald Trump, qui tient fondamentalement à ce que cet accord de paix, eh bien, arrive à son terme.
Quand vous lisez l'ensemble des réactions, celles des médiateurs par exemple, dont la Turquie félicite en substance le président des États-Unis, l'ensemble des pays européens également qui saluent vivement cet accord, il y a une forme de contraste entre ces éléments qui semblent faibles et ces réactions qui, elles, pourraient sembler dithyrambiques.
Oui, alors c'est vrai, mais il faut prendre en compte plusieurs choses. D'abord, on va revenir sur quelque chose de fondamental, c'est le bombardement israélien du 9 septembre sur la délégation palestinienne qui se trouvait à Doha. Là, il y a une faute stratégique majeure de Netanyahou, une faute stratégique dont il ne se remettra peut-être pas, parce que tout change à partir de ce moment-là. Le Qatar est absolument ulcéré, mais derrière lui, tous les pays du Golfe le sont également. Ils voient que finalement, la guerre est entrée chez eux. Donc, ils vont réagir et s'impliquer d'une part beaucoup plus. Enfin, le Qatar était déjà impliqué, mais les autres pays vont s'impliquer encore plus. Et puis, le président Trump va faire la leçon à Netanyahou et ça va le contraindre un petit peu à aller de l'avant et à accepter ce plan de paix, alors qu'il avait déjà plus ou moins accepté. Mais enfin, il y avait beaucoup de divergences, de différences entre eux. Maintenant, Netanyahou est obligé d'accepter finalement que le président Trump lui torde le bras. Et c'est pour ça que finalement, on ne parle pas encore de la deuxième phase de ces accords qui risquent d'être compliqués à appliquer, en particulier la question du retrait israélien, de qui gouverne Gaza, qui va gouverner Gaza, et puis la question du désarmement du Hamas.
Le journaliste Jean-Pierre Perrin, que vous pouvez écouter chaque semaine dans l'Orient décrypté sur Radio Orient, Spotify et les réseaux de votre radio, il répondait à François-Xavier de Calonne. C'était le dossier du jour. Merci à Raymond Jouan, à la technique. Bonne suite de programme sur Radio Orient.